Mesdames, Messieurs, bonjour. Jacques, pour le magazine de CFM Radio, nous sommes ensemble jusqu'à la demi et c'est jeudi. Le jeudi, sur CFM Radio, on met les mains dans la terre et c'est en compagnie de Rémi Kulik, jardinier permaculteur à Vaour, avec qui il sera question aujourd'hui des légumes vivaces. Et puis dans le coup de projecteur de la rédaction, Madame Véronique Gaumont, qui est la professeure documentaliste du collège de Cordes-sur-Ciel et qui est à l'initiative depuis plus de 20 ans maintenant du prix littérature jeunesse. Prix Valseyrou. La particularité de ce prix, c'est qu'il est attribué par des collégiens, non seulement du collège de Cordes, mais d'autres établissements, comme nous le découvrirons dans le coup de projecteur qui est à suivre d'ici une petite vingtaine de minutes. La musique pour démarrer, avant de parler de jardinage avec Rémi Kulik, on écoute Paris en hiver.
La vie des autres influencée, ta pièce en poche pour ton café. Tout ce que tu veux c'est être parfait, cravate, magenta. Même une grosse bague pourrait rien te faire. T'envoies pas les gens à l'esphère. Retire ton salaire en espèces, chante la grosse moula. T'es froid comme Paris en hiver. Froid comme Paris en hiver.
CFM Radio, votre radio dans le Tarn.
En compagnie de Rémi Kulik du Jardin des Merveilles de Vaour pour Plantes, Histoire de Plantes sur CFM Radio. Bonjour Rémi.
Bonjour, bonjour à tous.
L'émission qui vous intéresse à la permaculture, au jardinage écologique, hein, on va préciser les mots parce que oui, c'est un parti pris, c'est un parti que l'on assume. Aujourd'hui, nous allons parler des légumes vivaces dans le potager. Rémi, sur ta chaîne YouTube, tu y as consacré récemment une chronique, hein, sur ces légumes vivaces qui sont pour la plupart, ou en tout cas pour certains, presque oubliés, presque aussi oubliés de nos jardins potagers, même si on les retrouve sur les étals des marchés ou dans les supermarchés. supermarché, on se dit, mais moi le premier, des fois que certains légumes sont impossibles à faire pousser comme ça dans le potager autour de chez nous. Et c'est ce dont on va parler parce que ce n'est pas aussi compliqué qu'on ne le pense. Mais on va commencer par la base de base. C'est quoi un légume vivace?
Ben, un légume vivace, pour définir déjà vivace, c'est une plante qu'on n'a pas besoin de ressemer tous les ans. Il y a trois cycles différents. Soit une plante, elle est annuelle, ça veut dire qu'elle va passer l'hiver sous forme de graines. Elle va faire son cycle en une année et puis faire ses graines et mourir. Une plante bisannuelle qui va, elle, faire son cycle en deux ans, passer une année sous forme de racines, comme la carotte par exemple. Première année, elle fait une carotte, la deuxième année, elle monte en fleurs et c'est fini. Et un légume, enfin une plante vivace, c'est une plante qui va faire son cycle sur plusieurs années et qui va pas forcément fleurir la première année ni la deuxième d'ailleurs. Le chêne par exemple fleurit pas avant 15, 20 ans voire même plus des fois. Donc un légume vivace, c'est un légume qu'on va mettre en terre et ensuite, je dirais, alors peut-être en exagérant un peu pour certains légumes, mais on pourrait presque l'oublier, le laisser faire sa vie et tous les ans récolter dessus. Bon, c'est pas vrai,
c'est
pour
pas,
tous les légumes.
C'est pas exactement ça, ouais.
Donc
ça
veut dire y a beaucoup de légumes vivaces différents au final.
Ça veut dire que pour les légumes vivaces, il faut plus ou moins bien choisir l'endroit où on les met en place.
Ah ben oui, ben oui, parce qu'une fois qu'il y est, alors encore une fois, il y en a plusieurs différents. La pomme de terre, par exemple, c'est un légume vivace. La pomme de terre, tous les ans, on va ramasser les tubercules et puis l'année d'après, on va en garder quelques-uns et puis on va les remettre en terre. Donc là, pour le coup, on le cultive comme une culture annuelle, pour le coup, parce que tous les ans, on peut les mettre à un endroit différent. Et à côté, on peut avoir l'asperge ou le topinambour, par exemple, qui eux vont rester en place pendant 10 ans, 15 ans, voire même, j'ai entendu quelqu'un me dire qu'il avait des asperges en place depuis 25 ans et qu'elles produisent encore tous les ans.
Bah alors tu as cité déjà deux des légumes vivaces dont j'aurais souhaité que l'on parle, hein, ces fameuses asperges et topinambours. Bon, les asperges sont connues, topinambours un peu moins, ça fait partie de ce qu'on appelle un peu les légumes oubliés, ces légumes presque qu'on montre comme ça en photo à nos enfants pour dire tu vois ça existait, ça avait un goût assez bizarre. Les asperges, tu me le disais en off, tout le monde peut faire pousser des asperges.
Mais complètement. C'est même fou à quel point c'est facile à cultiver, mais ça fait partie des légumes qui sont peu cultivés. Or, comme le topinambour, mais pas pour la même raison, l'asperge est peu cultivée parce que tout le monde pense que c'est quelque chose de difficile, alors que moi j'en suis l'exemple. Il y a 10 ans, j'en ai planté, alors même 12 ans peut-être, j'en ai planté dans mon jardin, et je n'y fais rien du tout depuis 12 ans. Certaines poussent au milieu de mes petits fruits, d'autres poussent au pied d'un mur en pierre qui a été monté depuis, juste à côté des asperges. Les asperges traversent les pierres, c'est un mur en pierre sèche, les asperges passent à travers les pierres et sortent tous les ans. D'autres sont au milieu d'un chemin enherbé complètement, et même l'enherbement ne les gêne pas. À partir du moment où c'est planté, que ça s'y plaît, après c'est sûr qu'il faut voir un peu le contexte, il faut que le sol convienne, le climat convienne, mais si le milieu convient, ça pousse tout seul, tous les ans. Je n'y fais strictement rien depuis 12 ans et j'en récolte tous les ans.
Et si tu arrives à faire pousser des asperges, on va dire sur le causse de Vao à 500 mètres d'altitude, logiquement en vallée, dans la vallée du Sérou, donc pour tous ceux qui sont sur le pays, Cordel, le Carmozin qui nous écoutent, c'est possible d'en faire pousser aussi.
Et je ne suis pas sûr, en
et
fait.
Pourquoi ?
Parce que l'asperge va aimer les sols plutôt drainants, pas forcément asséchants, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, ce qu'elle aime pas, c'est les sols qui vont être hydromorphes. Donc si vous êtes dans la vallée du Sérou, sur un sol qui reste gorgé d'eau pendant l'hiver, ou sur un sol pas forcément gorgé d'eau, mais en tout cas argileux, qui va être un peu hydromorphe, l'asperge n'aime pas du tout ça. Mais il y a toujours des façons de faire, hein. Soit on va les faire un petit peu surélever sur une butte. Soit
un petit
carré
potager, par
exemple. Ouais, voilà, ouais. Pourquoi pas, ouais, complètement. Ou alors creuser une petite tranchée au moment de la plantation et puis mélanger un peu de sable à notre terre, rajouter de la matière organique qui va aider l'eau à circuler un petit peu et qui va empêcher le côté compactant de l'argile. Donc voilà, il faut juste... Mais je dirais ça, c'est valable vraiment pour toutes les cultures. On peut pas faire pousser n'importe quoi n'importe où. On va voir déjà qu'est-ce qu'on a comme climat, qu'est-ce qu'on a comme sol, et puis qu'est-ce qu'on a comme disponibilité pour l'entretien éventuellement, mais surtout le contexte, et on va cultiver les plantes qui correspondent à notre contexte. Ça, c'est un truc qui plaît pas forcément, et pour les gens qui se lancent un petit peu, quelqu'un un jour dans un commentaire qui m'a reproché de dire qu'on doit s'adapter à son sol, et si on a un sol de tel ou tel type, il y a certaines cultures qu'on peut pas faire. Et qui m'a reproché de dire, mais du coup, ça veut dire quoi que quand on est sur un sol trop argileux, il y a des cultures qu'on n'a pas le droit de faire, qu'on
ne
peut pas
faire.
Ben oui, on s'adapte. Tout ne peut pas pousser n'importe où. Si vous voulez faire des choses qui ne sont pas adaptées à votre contexte, soit ça va pas marcher du tout, soit ça va marcher un petit peu, mais pas autant que vous le voudriez, ou en tout cas, ça va demander beaucoup de boulot pour que ça marche. Par contre, si vous faites des plantes qui sont complètement adaptées à votre contexte, ça va pousser tout seul.
Si on a l'énergie et le temps pour ce fameux boulot à faire pour que ça marche, ça peut passer notamment par amender le sol, c'est-à-dire à tout faire en fait pour que la structure du sol évolue et change un tout petit peu, que ce soit par un apport de sable, par un apport de fumier, par des cultures aussi qui peuvent permettre de décompacter le sol. Donc l'asperge, je sais pas cette année que je vais la faire, mais c'est peut-être dans 4 ans que j'arriverai à la faire pousser si j'ai fait ce qu'il fallait sur
mon sol.
Pourquoi
pas? Pourquoi pas? Après, moi, je dirais, tu peux tester. Après, ne mise pas trop gros dessus s'il y a des chances que ça marche pas. Mais tu peux toujours en planter un petit peu maintenant. Puis tu verras bien. Et puis, si ça marche pas, tu verras aussi pourquoi ça marche pas. Mais l'amendement, oui, peut être intéressant. Moi, je dirais, la première année, apporter du sable, là, tu vas carrément jouer sur la texture de ton sol. Donc, faut le faire de manière très isolée. Le faire juste dans une tranchée pour faire quelques carottes ou quelques asperges. Pourquoi pas? Après, si tu vas apporter du sable pour changer tout ton terrain, enfin tout le sol de tout ton jardin,
c'est une autre histoire.
Tu peux amener quelques semi-remorques de sable, mais là, pour moi, on s'éloigne un petit peu de mes méthodes où j'aime bien m'adapter à mon contexte plutôt que d'essayer de le changer. Après, amender, dans le sens, apporter de la matière organique, apporter, pourquoi pas, du compost, du BRF, du broyat de bois, ou des feuilles mortes, ça va aider un petit peu. Et puis après, moi, je dirais plutôt, si tu vas apporter des feuilles mortes, plante un arbre. Tu vas en apporter un peu, peut-être la première année, toi, de la manière que tu veux, mais l'arbre, lui, va t'en apporter naturellement tous les ans. Et à partir de là, l'amendement, il se fera automatiquement comme il se fait dans la nature, ce qui apporte ce qu'on appelle l'auto-fertilité dans les jardins forêts, d'ailleurs.
Revenons-en stricto sensu aux légumes vivaces. On a beaucoup parlé de l'asperge, on a abordé les topinambours, mais les topinambours aussi, c'est faisable et à faire presque pour tout le monde. Pas partout, bien sûr, mais possible.
Oui, t'as bien reçu le message. Ben, en fait, ouais, le topinambour, alors, comme l'asperge, c'est un légume qui n'est pas cultivé, je disais pas pour la même raison. L'asperge, parce qu'on pense que c'est compliqué, et le topinambour, parce qu'après-guerre, on a beaucoup mangé de ça, et qu'il y a pas mal de gens, des grands-parents là, qui s'en souviennent encore, et qu'on a eu marre d'en manger. Bon, aujourd'hui, ça va, le phénomène d'après-guerre, je pense que là, il est un peu derrière nous. C'est bien d'être conscient de ça, mais il est un peu derrière nous. Donc, on peut en cultiver. Alors, il y a autre chose, peut-être, qui va limiter la consommation par certaines personnes, c'est que ça fermente un petit peu dans les intestins et ça produit du gaz, qui n'est pas toujours bien reçu. Mais au-delà de ça, on peut mélanger, quand on mange des topinambours, mettez de la sarriette ou de l'épazote avec, ça limite la production de gaz, et du coup, on peut en manger... sans avoir peur de faire de la musique après, quoi. Donc, le topinambour, voilà, pas du tout compliqué à cultiver. Et puis là, pour le coup, encore une fois, comme pour l'asperge, une fois qu'on le met en terre, ça pousse tout seul. Alors, soit on va le récolter pendant l'hiver, le manger, et si on récolte tous les tubercules, bah, ça va pas pousser derrière. Mais en général, même quand on fait un petit peu attention, quand on récolte, il va toujours en rester un petit peu et ça va repartir. Ou alors, on se dit, on en a mis à pas mal d'endroits différents. Moi, c'est vraiment ce que je fais. J'en mets dans beaucoup d'endroits, en association avec d'autres cultures, au pied de mes arbres, dans mes buissons. Et puis, je vais en récolter certaines et pas d'autres. Et puis, pendant l'hiver, ben, j'ai juste à me rappeler où est-ce que j'ai vu pousser des topinambours. Et c'est là que je vais les gratter pour ramasser 2-3 tubercules. À la limite, en général, j'en ramasse un peu plus que ce que je vais manger. Je mange une partie et les autres, je vais les mettre un peu partout dans mon jardin. Et puis, c'est une culture qui se débrouille toute seule, en fait. Si j'ai envie de manger des topinambours ou si quelqu'un veut des topinambours à planter chez lui, j'ai juste à les gratter dans mon jardin, il y en a.
Et est-ce qu'il y a d'autres légumes vivaces comme ça sur lesquels tu aimerais un peu attirer notre attention aujourd'hui?
Alors, il y en a un que moi j'aime bien, que je développe là depuis quelques années, c'est le yacon, qu'on appelle la poire de terre.
C'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Moi, j'ai l'impression d'avoir découvert ça il y a 2 ans, quoi. Si avant, il n'y en avait pas.
Moi, ça fait quelques temps, ça fait 2-3 ans là, que j'en parle de plus en plus. Et surtout, alors, ça fait peut-être 4, 5, 6 ans maintenant que je le cultive et que je vois un peu comment ça fonctionne. Et c'est une culture que je dis exponentielle. On va en planter une éventuellement dans son jardin. Donc, ça fait des gros tubercules, un peu comme le dahlia. Il y a le cœur de la racine avec les bourgeons et sur le côté des tubercules. Les tubercules, on les mange et le cœur de la racine avec tous ces petits bourgeons dessus, on va le séparer. Chaque bourgeon va redonner une plante. Donc, si on repart, on va en planter un dans son jardin. Les tubercules, on peut produire, alors moi je disais 5 à 10 kilos, j'ai jamais eu 10 kilos, ça m'est arrivé d'avoir 7, 8 kilos sur une plante, c'est déjà énorme. Allez, on va dire, on rate la culture, on fait 4, 5 kilos. Par contre, le cœur de la plante, on va le séparer, chaque bourgeon va donner une plante, moi sur une plante, en général, j'arrive à produire 10, 15, jusqu'à 20 nouvelles plantes. Donc on a une plante qui va nous produire 5 kilos de tubercules et nous reproduire 20 plantes, allez, 10 plantes si on se débrouille mal pour l'année d'après. Donc l'année d'après, on va faire 10 fois 50 kilos, 10 fois 5 kilos, donc 50 kilos. Et chaque plante va nous reproduire 5, 10, 15 plantes pour l'année d'après. Il va arriver un moment, au bout de 3 ans, où on en a beaucoup trop. Donc c'est une culture qui n'est pas très très compliquée à faire. Là, on va pour le coup plutôt la mettre dans une partie potagère où tous les ans on va récolter parce qu'elle est un peu sensible au gel. Donc tous les ans, on va tout arracher, récupérer les tubercules pour les manger, récupérer les bourgeons qu'on va séparer, les mettre dans des pots, dans un garage, un atelier, une cave, n'importe où, un endroit hors gel. Mmh. Et dès le printemps, parce qu'en fait, vu qu'elle est gelée, elle reste sous terre, il n'y a pas besoin de lumière. Dès le printemps qu'on voit les bourgeons qui sortent, c'est le moment de la remettre en terre. Et puis c'est reparti pour un cycle.
Et quitte à avoir des kilos et des kilos comme ça de manière exponentielle, ça donne quoi au goût, la poire de terre? Pourquoi déjà ce nom de poire de terre? Parce que ça ressemble à une pomme de terre, plus ou moins.
Ouais.
Est-ce que ça a le goût de la poire?
Ça a la forme un peu d'une patate douce, un peu allongée. Au niveau du goût, je dirais pas que c'est un goût de poire, et encore une fois, ça dépend de comment on le cuisine. Mais ce qui est intéressant, c'est... Alors, encore une fois, c'est la même famille que le topinambour, ça produit des gaz, donc selon comment on le mange, voilà, tout le monde n'y est pas forcément sensible, mais certaines personnes m'ont dit « waouh, ça y va bien ». Donc voilà, si on n'est pas trop fragile par rapport à ça, on peut le cultiver. Et pour le consommer, en cru, en cuit, en sucré, en salé, il y a plein de façons de le cultiver, de le consommer, pardon. Juste cru comme ça, râpé, ça va avoir un goût, je dirais, peut-être qu'il se rapproche de la carotte avec la texture de la poire un petit peu. Par contre, dès qu'on le cuisine, ça perd un peu de son goût. Donc c'est pas pour le goût qu'on va le consommer, mais par contre c'est pour le côté, ça produit beaucoup. Donc c'est une grosse base alimentaire, on va y faire une petite sauce, on va l'agrémenter avec d'autres choses qui vont donner du goût. Par contre ça va produire de l'aliment en grosse quantité.
Même pas peur hein, des crises économiques et tout ça qui s'annonce. Si on a tous un ou deux plants de poires de terre dans notre jardin potager, eh bien on s'en sortira, on aura toujours quelque chose à manger. En somme, c'est aussi à ça que servent hein, ces légumes vivaces dont on a parlé aujourd'hui avec Rémi Culic du Jardin des Merveilles de Vahour. Donc c'est un peu hein, la nouvelle cause qui est défendue. Hein, c'est pour une forme d'autosuffisance alimentaire aussi. Il faut des plantes comme celle-là, comme les topinambours, comme les poires de terre et puis les asperges pour se dire que mais c'est accessible et possible d'en faire pousser presque partout et partout dans le monde, ça c'est sûr. Merci beaucoup Rémi Culic, on se donne rendez-vous et bien la semaine prochaine pour d'autres sujets thématiques hein, en lien avec l'éco-jardinage, avec la permaculture aussi, mais en tout cas avec le bien de tout le monde, les humains et les végétaux aussi. On va parler tiens, de l'auto-fertilité la prochaine fois. Dans le magazine, Madame Véronique Gaumont, professeure documentaliste au collège Valcéroux de Cordes-sur-Ciel, qui vient nous parler du prix Littérature Jeunesse, le prix Valcéroux, l'édition 2023, que l'on va découvrir après un moment de musique. On écoute Balthazar, groupe belge, et pour le titre, c'est Moments. Illusion.
this moment, but it ain't nothing without you. Yeah, you.
C'est au collège de Cordes-sur-Ciel qu'est né le prix Valserroux, qui en est à sa 23e édition aujourd'hui et qui récompense chaque année un auteur de littérature jeunesse, mais sur l'imaginaire médiéval, pour faire et avoir un lien avec la cité de Cordes-sur-Ciel. Et c'est à l'initiative de la professeure documentaliste, Madame Véronique Gaumont.
Alors le prix Valserroux s'adresse à des élèves de 5e et de 4e. C'est un prix, je dirais, citoyen, puisque les élèves doivent s'engager eux-mêmes. Il n'y a aucune obligation à ces lectures. C'est à eux de se dépasser et entreprendre de lire trois livres d'une sélection qui a été faite par des professeurs documentalistes de plusieurs collèges du Tarn. À l'heure de la lecture, qui est quand même une grande cause nationale, je crois qu'il est intéressant de s'interroger sur comment on lit, pourquoi on lit, et quelle responsabilité on a dans la lecture et comment elle nous encourage aussi à prendre des responsabilités.
Alors, on parle du collège Valserroux de Cordes-sur-Ciel, où ce prix est né, un prix de littérature jeunesse qui récompense donc chaque année un auteur ou une autrice dans ce domaine-là. Aujourd'hui, il y a plusieurs établissements qui y participent. En 2023, est-ce qu'on peut les citer rapidement?
Oui, bien sûr. Alors, collège de Vielmur, collège de Puy-Laurent, qui sont là depuis plusieurs années. Le collège de Bellevue, c'est la première année. Donc le collège de Cordes, bien sûr, et aussi un collège de Narbonne, hors département, mais qui participe depuis l'an dernier.
Et les trois œuvres en lice cette année pour le prix Valserroux: Allégré, apprenti chevalier par Madame Claudette Chevalier-Spire, Arthur et Merlin, la grande épopée des chevaliers de la table ronde que l'on doit à Madame Sophie Lamoureux, et enfin Madame Catherine Cuenca pour La jeune fille et le chat.
CFM, coup de projecteur.
Le retour des informations, c'est dans 4 petites minutes sur CFM Radio, le Mag du Tarn. C'est tout pour aujourd'hui. On va se quitter en musique avec le titre Suspendu au vent. C'est Dimonet.
Des gicles de vinaigre sur le calcaire, croqué dans la glaise, le civet dans le cratère, un soufflet soufflé, un soufflet, ce toit sur le marbre, noirci au mirage, lustré au visage, sué sur les cendres, je t'attends, tu ne peux plus me surprendre. Suspendu au vent, je fais bon usage d'une mandragore dans mon
dans mon ermitage. Je lorgne Syracuse pour t'ériger en strophe. C'est fait pour que j'abuse de la tour du philosophe. Noirci au mirage, lustré au visage, sué sur les cendres, je t'attends. Tu ne peux plus me surprendre. Suspendu au vent, je fais bon usage d'une mandragore dans mon ermitage. Suspendu au vent, je fais bon usage d'une mandragore dans mon ermitage. Je lorgne Syracuse pour t'ériger en strophe. C'est fait pour que j'abuse de la tour du philosophe. Ah si, elle poète, où va-t-on? Où est le bâton?
Au vent suspendu, autant suspendu, autant se perdre tellement de toi, je suis mordu. Autant te prendre et se pendre au cou la corde bien tendue et tendue à tes pieds, poings liés, liens serrés, à attacher, à te lécher, à marrer chez les fous. Enfermé, aujourd'hui j'ai pourtant pour toi les courants des marées domptés, j'ai pour toi été roi. Toi pourtant combattu, les corps nus à main nue, défendu nos ébats et perdu, m'entends-tu? Oh toi ma reine, tu le sais, mon cœur et mes poings sont serrés. Désormais mon destin est scellé, scellé. Vent qui m'invite à te faire ce serment, ton amant. Je resterai en quittant ce corps à présent, nourriture pour me suspendre au vent.
Suspendu au vent, je fais bon usage d'une mandragore dans mon ermitage.